La dernière fois, en fait, on a travaillé sur plutôt ce qu'était la rédemption et le salut offert par le Christ. Donc, on a étudié plutôt la passion et la résurrection du Christ. Et là, en fait, on se met de notre côté et on se dit, bah, finalement, c'est quoi les effets de la rédemption sur nous? Qu'est-ce que ça change pour nous, en fait? Voilà. Donc, ce qu'on dit dans le credo, c'est pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié sous Ponce Pilate, et il souffrit sa passion, il fut mis au tombeau pour ressusciter le troisième jour, conformément aux Écritures. Donc on est bien, c'est pour notre salut. Voilà. Et puis un autre passage de Matthieu qui dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc en fait, on a cette notion de salut qui est annoncée donc à plusieurs reprises, là c'est de façon différente, mais donc cette notion de salut, et donc notre salut, c'est quoi notre salut? C'est quoi nous sauver? Alors saint Thomas d'Aquin, lui, il a, alors je n'ai pas repris ses mots exacts, mais il définit le salut comme étant finalement quand un être atteint ce pour quoi il est fait, on dit qu'il est sauvé. Attends, il y a quelqu'un qui rentre. Hop. Faire entrer. On a Daniel qui arrive. Bonjour Daniel, je viens juste de démarrer. Voilà. Alors, donc saint Thomas d'Aquin, lui, il dit la définition du salut, elle peut se résumer de cette façon. Quand un être atteint ce pour quoi il est fait, on dit qu'il est sauvé. Et quand il ne l'atteint pas, ben, on dit qu'il est perdu. Voilà. Donc, c'est une définition assez simple, je trouve, et qui a le mérite d'être assez pragmatique. Voilà. Daniel, en fait, on regarde aujourd'hui, la dernière fois, on a regardé plutôt le côté de Jésus, qu'est-ce qu'était le salut, sa passion, la résurrection. Et aujourd'hui, on regarde plutôt quel effet ça a sur nous, qu'est-ce que ça veut dire notre salut, comment ça nous touche, en fait. Voilà. Donc, l'Écriture atteste que nous sommes faits pour Dieu. Saint Augustin l'écrit au début de ses confessions. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Donc, finalement, être sauvé, c'est atteindre ce pourquoi nous sommes faits. Parvenir à ce qui nous est promis. Et donc, finalement, c'est partager la vie de Dieu. Voilà. Donc, si on va au bout du bout, le salut, ça va être ça. Donc, on peut dire aussi le salut, c'est à la fois, il y a l'arrachement à quelque chose de mauvais, le péché et la mort, le passage à travers le désert, puisqu'il y a quand même de la croix, et on sait très bien qu'aujourd'hui, enfin, même nous, on traverse des passages de souffrance, etc. Et puis, on va passer par la mort. Et puis, il y a l'accession à la terre promise, et donc le royaume. Voilà. Et la vie éternelle. Donc on va voir un peu tout ça. Alors on va suivre en fait les différents sacrements parce que finalement je crois que c'était bien. Et puis surtout on a une très belle phrase de la lettre de Saint Jean, la première. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Et donc en fait ce témoignage c'est donc l'eau c'est le baptême, le sang c'est l'Eucharistie et puis l'esprit c'est l'Esprit Saint, la confirmation. Donc en fait on va suivre ces trois sacrements. Qui font aussi référence à Jésus sur la croix, où on dit un des soldats avec sa lance lui perça le côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Donc on a vraiment ces deux notions-là qui sont comme si le salut se déversait sur nous. Voilà. Sachant que le Saint-Esprit, il n'arrive pas juste sur la croix, même si Jésus, au moment de mourir, remit l'Esprit, donc quelque part l'Esprit, ça y est, il est donné. Et puis il y aura les Pentecôtes un peu plus tard. Nous allons approfondir ça. Alors, on va commencer par l'eau et le baptême, et le sang et la communion, et enfin l'esprit et la confirmation, ce qui n'est pas exactement l'ordre habituel des sacrements, puisque normalement c'est plutôt le baptême, la confirmation et ensuite la communion. Mais en fait, l'idée c'est que le dernier, la confirmation, l'Esprit Saint, finalement c'est celui qui nous met en mouvement. C'est là où nous, on a aussi notre réponse active en fait. Donc, c'est non seulement on reçoit et ça nous transforme, mais aussi nous, on va pouvoir agir. Voilà. On va aborder différentes notions. L'illumination, la réconciliation, la divinisation, etc. Alors, on peut penser que c'est des notions qui sont assez proches, finalement, et pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus simple et qu'on n'utilise qu'un seul concept? Mais en fait, toutes ces différentes subtilités de sens, on va dire, ça nous permet un peu plus d'approfondir la réalité de ce salut, qui est très riche, qui pourtant est très simple. Finalement, c'est la guérison de notre nature blessée par le péché. Mais il y a plein de tonalités. Et pour voir toute cette richesse, en fait, on va regarder tous ces différents alors, concepts ou façons de regarder pour approcher cette réalité. Voilà. Et je trouve que le Père Giton a une phrase qui est très parlante, parce qu'il dit, en fait, on peut regarder donc la cessation de la panne n'est pas autre chose que le passage du courant. Et c'est vrai, quand on dit, bah, ça y est, le courant est rétabli, donc de nouveau, on a le courant, l'électricité qui passe, et c'est en même temps, on peut dire aussi, bah, ça y est, la panne est réparée, en fait. Et dans le péché, en fait, le salut, il y a un peu ça. On répare quelque chose, et finalement, on corrige, on annule le péché, la mort, etc. Et puis en même temps, on rétablit le courant, c'est-à-dire le flux et la possibilité d'interagir avec Dieu, en fait. Voilà. Donc j'aime bien cette phrase-là, je trouve qu'elle est assez simple et assez parlante. Mais du coup, ça montre que là, c'est riche, quoi. Enfin, qu'il y a beaucoup de choses. Alors, on va commencer par l'eau et le baptême. Donc je vous ai remis un petit passage qui explique un peu le baptême. Donc c'est du catéchisme de l'Église catholique, hein, donc je serai dans les références. Donc par le baptême, nous sommes libérés du péché, régénérés comme fils de Dieu. Nous devenons membres du Christ, nous sommes incorporés à l'Église et faits participants à sa mission. En fait, on a plein d'aspects qu'on va un peu creuser. Le mot baptiser, ça veut dire plonger, immerger. Donc en fait, on est vraiment cette idée de plonger dans l'eau. Et c'est pour ça que maintenant, d'ailleurs, on retrouve un peu dans beaucoup de baptêmes, maintenant se repasse en immersion complète et pas juste avec quelques gouttes d'eau versées. Parce qu'il y a cette idée de la symbolique est forte. Et puis c'est ce qu'a fait Jésus dans le Jourdain. C'est vraiment de se plonger dans l'eau. Et l'idée, c'est qu'on se plonge dans l'eau qui représente qui symbolise la mort. L'eau dans toute la Bible, etc., dans tous les évangiles, etc., elle symbolise la mort, sauf quand c'est l'eau vive ou la source. Et là, à ce moment-là, c'est la vie. Donc, elle est assez ambiguë. Mais donc là, on plonge dans la mort pour ressortir de l'eau et donc ressusciter avec Jésus comme une nouvelle créature. Donc, ce bain du baptême est appelé illumination. Donc, on a une première notion là qu'on va creuser. Parce que ceux qui reçoivent cet enseignement catéchétique ont l'esprit illuminé, ce que nous dit Saint Justin. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous tous, nous avons été baptisés. On a été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle. On a aussi toutes les notions des baptisés qui ont revêtu le Christ. Donc ça nous met en proximité avec le Christ. Et puis il y a aussi la notion d'Esprit Saint qui est présent au baptême, même si on va le creuser un peu plus loin avec plutôt la confirmation. Le baptême est un bain qui purifie, sanctifie et justifie. Donc on voit que quand on décrit le baptême, enfin ce que fait le catéchisme de l'Église catholique, il décrit quelque chose qui est quand même, qui touche beaucoup de choses. Alors on va creuser un petit peu toutes ces notions. Donc tout d'abord, libérer du péché. C'est peut-être la partie la plus évidente de la passion du Christ, c'est qu'elle nous libère du péché. C'est-à-dire la résurrection, elle écrase le démon et l'humanité captive du péché peut enfin s'échapper. Tous les synoptiques, donc les trois évangiles, Luc, Marc et Matthieu, insistent sur le salut. Le mot « sauvé » apparaît quand même 24 fois, ce qui n'est pas rien dans ces évangiles. Et en fait, ce n'est pas un salut un peu générique ou général, c'est vraiment un salut très précis, c'est être sauvé du péché. Et le péché est souvent illustré par la séparation de Dieu. Donc en fait, ce que fait le salut, quand on dit qu'on est libéré du péché par la passion et la résurrection du Christ, c'est qu'en fait, il libère notre être, notre âme, notre vie, donc vraiment tout. C'est ce qu'on dit aussi dans l'exultète. Là, il n'y a pas longtemps, on avait la vigile pascale, et on parle de la nuée, quand on arrive avec le cierge, la nuée ou le feu de la nuée lumineuse a repoussé les ténèbres du péché. Voici la nuit qui, aujourd'hui, dans tout l'univers, arrache au monde aveuglé par le péché ceux qui ont mis leur foi dans le Christ. Donc en fait, ce que fait la passion et la résurrection du Christ, c'est qu'elle nous, finalement, elle nous rachète, elle nous libère de ce péché originel et elle nous permet d'être purifiés, pardonnés de nos péchés et purifiés. C'est ce que je vous ai mis dans la citation de Luc. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. De racheter de toutes nos fautes et nous purifier. Ça, c'est dans la lettre à Tite, oui. On a aussi dans Romains libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle semblable à celle des pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a condamné le péché dans l'homme charnel. Et donc, de cette manière, on a une libération définitive. Alors, il nous libère, en fait, parce qu'il nous libère du péché originel, en fait, donc de cette faiblesse humaine qu'on a contractée à la suite du péché d'Adam et d'Ève. Et donc, on a cette faiblesse qui fait que c'est comme le péché, c'est un peu comme une ankylose. Voilà, il nous empêche de bouger. Ce que fait le salut du Christ, c'est qu'il nous donne la capacité de ne pas pécher, en fait. Voilà. Donc, autant sous la loi de Moïse, donc avant la passion et la résurrection du Christ, bah, on voit bien qu'il y a beaucoup de difficultés. Le peuple d'Israël en est l'illustration, toute l'histoire du peuple d'Israël en est l'illustration. C'était difficile de ne pas pécher, difficile de ne pas de rester attaché à Dieu, etc. Donc là, il y a vraiment, par le baptême, du coup, c'est ce qu'on expérimente, on est vraiment libéré du péché originel. Donc le péché d'Adam, le péché personnel, c'est aussi le pardon de nos péchés, et puis les suites du péché, c'est-à-dire c'est aussi toutes les conséquences, voilà. Donc en fait, notamment la séparation de Dieu. Donc finalement, on est restauré dans quelque chose où tout devient possible, voilà, c'est possible. Et finalement, ce qui reste, et c'est pour ça qu'on n'expérimente pas complètement et que c'est pas si simple à vivre en fait, c'est que les conséquences temporelles, donc ce qui est lié à notre terre en fait, du péché reste. Et donc c'est cette inclinaison au péché, la concupiscence, qu'on appelle un mot très moche, mais qui est cette inclinaison qui fait qu'on a tendance à pécher et qu'on a tendance à se laisser tenter et à aller au bout de la tentation et à pécher. Voilà. Donc on a ce penchant, mais on est libéré fondamentalement du péché originel. Bienvenue, je ne sais pas qui. J'ai pas eu le temps de voir. Donc on a cette libération du péché. Après, une deuxième notion que nous apporte le baptême, qui était dit dans la introduction, c'est le salut, ça nous rend juste. Alors en fait, quand on dit juste, ça a plusieurs notions, mais principalement, la notion la plus juste d'ailleurs du mot juste, c'est vraiment de dire qu'on est ajusté à Dieu. Donc en fait, cette libération du péché, ce que ça nous fait, c'est que ça nous rend capable de Dieu, c'est-à-dire on retrouve finalement l'image et la ressemblance à laquelle on avait été créé en fait. Dans la Genèse, Dieu fit l'homme à son image, à sa ressemblance, c'est ce qu'on dit. Et donc, par le péché, on avait perdu cette ressemblance. Et donc, grâce à la libération du péché, grâce à la passion et la résurrection de Jésus, et bien finalement, on retrouve cette possibilité de ressembler à Jésus. Voilà. Donc, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, c'est Jésus dont on parle, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Donc en fait, on n'est pas juste parce que, à la force de nos petits bras, parce qu'on fait des choses bien, parce qu'on est irréprochable, etc. Donc on n'est pas juste dans cette notion-là. On est juste parce que finalement, c'est Jésus lui-même qui nous permet, qui nous donne la capacité d'être juste, en fait. Voilà. Et donc c'est cette justice même de Dieu qui s'est concrétisée dans la passion et la résurrection de Jésus, qui fait que nous aussi, bah, finalement, on en bénéficie. Donc c'est grâce à Dieu, dans le Christ Jésus, qu'on est devenu, par un don de Dieu, hein, la sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Donc là, on a les trois mots qui sont associés et qui finalement sont un peu la même chose. Sanctification, ça veut dire, la sanctification, c'est mis à part, séparé d'eux, et c'est tout ce qui est saint. C'est du côté de Dieu en fait, donc on est rendu du côté de Dieu, donc on est bien restauré avec cette idée de ressemblance. La rédemption, c'est l'idée de rachat, c'est l'idée de on est sorti de notre esclavage du péché, et donc on est rendu libre. Et puis la justice, c'est cet ajustement à Jésus. Donc finalement, ces trois notions sont assez proches. Donc la justification vient de la grâce de Dieu, donc c'est entièrement l'initiative gratuite de Dieu, puisque c'est avant même que nous ayons commencé à revenir à lui, avant même qu'on ait exprimé notre foi, en fait, on est sauvé d'abord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on baptise les petits-enfants, c'est qu'il n'y a rien, on n'a pas... Dieu, enfin, le baptême n'est pas efficace parce qu'on a... on y est arrivé, on confesse notre foi, etc. Il nous est donné avant même que nous fassions quoi que ce soit, en fait. Donc on peut le recevoir comme ça. Alors, pédagogiquement, quand on est adulte et qu'on demande le baptême, bah, évidemment, on exprime sa foi et on essaye de comprendre ce à quoi on va adhérer, parce que justement, on est libre et donc il faut qu'on puisse y adhérer. Mais finalement, quand on est petit enfant, bah, on peut pas faire cette démarche à ce moment-là. Donc on la fait pas à ce moment-là. Et du coup, le baptême est tout à fait valide et on est vraiment restauré, justifié, en fait, par le baptême. Voilà. Donc la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Donc il n'a pas attendu qu'on soit des justes, hein. Il n'est pas mort que pour les justes, il est mort pour les pécheurs. Et à plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu ? Alors le thème de la colère de Dieu, bon, c'est un peu ambigu parce que c'est pas que Dieu est en colère, mais c'est que finalement c'est le mal qui le met en colère. Et du coup, voilà, c'est cette idée-là. Donc la préparation de l'homme à l'accueil de la grâce est déjà une œuvre de la grâce. Donc le fait même qu'on puisse recevoir le baptême ou qu'on demande le baptême quand on est adulte, c'est déjà en fait, comme en anticipation, une œuvre de la grâce. Alors quand on dit la grâce, là c'est pas mal l'Esprit Saint aussi, qui nous permet en fait déjà de nous rendre capables de nous tourner vers Dieu et de dire, de demander le baptême, quoi, quelque part. Donc celle-ci est nécessaire, alors donc cette préparation de l'homme et cet accueil de l'œuvre de la grâce, elle est nécessaire pour susciter et soutenir notre collaboration à la justification par la foi. Excusez-moi, il y a encore quelqu'un qui est arrivé, je crois. Quelqu'un qui est revenu. Rebonjour Marie-Faustine. Donc c'est la libre initiative de Dieu qui réclame... Je me suis sauté une ligne. Donc, nécessaire pour susciter et soutenir notre collaboration à la justification par la foi et à la sanctification par la charité. Alors, cette phrase est un peu compliquée, ça veut juste dire que finalement, Dieu nous donne la capacité de nous retourner vers lui. Il nous donne aussi la possibilité de le faire par le salut. On peut le faire, donc c'est de nouveau possible. La libre initiative de Dieu réclame la libre réponse de l'homme. Car Dieu a créé l'homme à son image en lui conférant avec la liberté le pouvoir de le connaître et de l'aimer. Donc Dieu ne va jamais s'imposer. Donc ce qu'il offre avec le salut, c'est une possibilité. Voilà. On peut revenir vers lui, on peut être rendu juste. Mais si on le refuse, ben on ne va pas être rendu juste. Voilà. Ce n'est pas malgré nous. Donc Dieu veut nous rendre collaboratifs du salut. Dieu donne que nous puissions donner. C'est lui qui nous donne que nous puissions aussi faire quelque chose et donc ne serait-ce que demander par exemple le baptême ou avoir la foi ou exprimer notre foi. Voilà. Donc la mission de salut confiée par le Père à son Fils incarné est confiée aux apôtres et par eux à leurs successeurs. Ils reçoivent l'Esprit de Jésus pour agir en son nom et en sa personne. Et ainsi dans les sacrements, le don total du Christ s'actualise en chacun de nous. Le sacrifice du Christ intervient dans notre salut personnel. Et la prière sur les offrandes du premier dimanche du temps ordinaire dit « Car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. » Donc là, on a vraiment cette idée de, voilà, chaque fois qu'on célèbre, ça veut dire qu'on finalement on s'offre aussi, c'est ce qu'on fait à la messe, l'offertoire, c'est ça, c'est non seulement on offre les biens de la terre, mais on s'offre aussi, on offre son cœur, on offre son être. Et en fait, c'est par cette libre acceptation du salut de Jésus que la rédemption finalement s'accomplit, parce qu'elle ne s'accomplit pas en dehors de nous, en fait, elle s'accomplit en nous. Donc ça, c'était la notion un peu de justice. Après, on a une autre notion du baptême, qui est l'illumination, qui est très symbolisée par le cierge, l'idée de lumière, et qui est magnifiée dans la vigile pascale, puisqu'on a toute cette dimension avec le feu nouveau, la lumière dans les ténèbres et puis la lumière, le cierge donné aux baptisés. Donc on a vraiment toute cette thématique de l'illumination qui est très importante. Donc le Christ est la lumière véritable qui illumine tout homme. Bonjour. Donc je continue. Donc là, on est sur la thématique du baptême pour voir les effets de la rédemption en nous. Et on est sur la thématique plus précise de l'illumination. Donc le Christ est la lumière véritable qui illumine tout homme. Le baptisé, après avoir été illuminé, est devenu fils de lumière et lumière lui-même. Donc au moment de la passion du Christ, c'est l'heure de... Je vais juste... voilà. Hop. Pardon. Au moment de la passion du Christ, c'est l'heure des ténèbres. À partir de la sixième heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Donc vraiment, le moment de la passion, c'est ce moment des ténèbres. C'est le moment où, quelque part, le mal pense gagner, en fait. Et à la résurrection, à contrario, tout est baigné de lumière. C'est l'aurore. Et puis, on a toutes ces mentions, on vient de les relire il n'y a pas longtemps, mais toutes les apparitions du ressuscité le premier jour, là, Marie-Madeleine... au sein de femmes, etc. Il y avait cette notion de l'aspect de l'éclair, un habit éblouissant, etc. Donc il y a cette idée de lumière, d'éblouissement même, voilà, qui rappelle l'illumination. Au moment où Jésus a rendu l'esprit sur la croix, donc quand il est juste avant de mourir, finalement il remet l'esprit, on a le rideau du sanctuaire qui se déchire en deux depuis le haut jusqu'en bas, ça c'est dans Matthieu 27-51. Et cette mention précise, qui n'est que dans Matthieu d'ailleurs, nous donne un peu cette idée que le mystère est dévoilé, et comme si nous avions un accès direct à Dieu, que notre intelligence pouvait être éclairée et que nous pouvions connaître Dieu. Le rideau du sanctuaire, c'était le voile qui séparait, qui faisait qu'on ne voyait pas le Saint des Saints, en fait. Et donc, il y avait cette idée de voiler, on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas le regarder. Et là, quand Jésus remet l'esprit sur la croix, au moment de sa passion, et puis après pour sa résurrection, et bien en fait, on a un vrai dévoilement. Et donc, à partir de là, on a un accès direct à Dieu. Et c'est un accès au sens voir Dieu, et on le verra un peu plus tard dans la partie Eucharistie, dans la communion et dans le sang et le pain et le vin transformés en le corps et le sang du Christ. Mais c'est aussi vrai au sens illumination de l'intelligence, et on peut connaître Dieu, c'est-à-dire, et connaître dans la Bible, c'est toujours la même, c'est proche de, quand on dit que Adam connut sa femme, voilà, donc c'est à la fois l'amour charnel et tactile, enfin, du toucher, enfin, des sens, mais c'est aussi l'intelligence, voilà, c'est connaître au sens intelligent, comprendre, connaître, apprendre des choses, voilà. Et donc, c'est ce que Jésus avait dit lorsqu'il a guéri l'aveugle de naissance. « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Voilà. Et donc, il y a cette idée de... Donc là, on retourne l'idée de jugement qu'on a vu un petit peu dans la justice. Mais il y a cette idée de lumière, voilà. Par la passion, par le salut, on peut comprendre et connaître Dieu. Alors, je vous ai mis un petit passage de Saint Clément d'Alexandrie dans « Le Pédagogue ». À l'instant où nous sommes baptisés, nous sommes illuminés. Illuminés, nous devenons fils. Devenus fils, nous sommes rendus parfaits. Rendus parfaits, nous recevons l'immortalité. Donc là, on a un beau programme. Je le dis, parole du Seigneur, vous êtes tous Dieu et fils du Très-Haut. Donc là, il fait référence au psaume 80. Et à cette action du baptême, on donne divers noms. On l'appelle grâce, illumination, bain, parachèvement. Bain, puisque nous y sommes purifiés de nos fautes. Grâce, puisque le châtiment dû par nos péchés est levé. Illumination, puisque nous contemplons la sainte lumière de notre salut, en laquelle nous pénétrons du regard les choses divines. Là, on rentre dans l'intimité des choses divines. Parachèvement, puisque rien ne manque. On verra un petit peu plus loin que rien ne manque, mais on a encore un petit peu de temps avant d'atteindre cette plénitude. Et à peine donc quelqu'un est-il régénéré, que comme son nom l'indique, il a été illuminé. Le voilà libéré des ténèbres et du même coup gratifié de la lumière. Donc là, on retrouve notre idée de cessation de la panne et restauration du courant électrique. Voilà, c'est la même idée. Nous sommes débarrassés de nos péchés qui, comme un nuage, couvraient l'esprit divin. Et voilà l'œil de notre esprit libéré, découvert, lumineux. Cet œil qui seul nous fait contempler les choses divines. Donc voilà l'illumination qui est vraiment cet éveil de notre intelligence et de notre cœur pour connaître Dieu et le rencontrer en fait. Et puis, dans le baptême, on a cette dernière notion sur le fait qu'on est devenu fils de Dieu, et fils de Dieu par adoption de Dieu. Donc, en fait, on est fils dans le Fils, grâce à Jésus qui nous entraîne comme ses frères et sœurs. Alors, ça, c'est un passage de Galates. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils. Je vais juste enlever un micro parce que sinon on entend. Je désactive juste les micros, mais si vous voulez parler, vous n'hésitez pas. C'est juste que j'ai du mal à... Voilà, comme ça on sera plus tranquille. Lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. La preuve que vous êtes des fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est aussi la prière du « Notre Père hein, », où on peut dire « Notre Père ». Donc on est vraiment dans cette relation filiale. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Et donc là, ce que nous dit Saint Paul aux Galates, c'est que finalement, on devient fils, que c'est l'Esprit en nous qui peut nous apprendre et nous illuminer pour pouvoir dire effectivement Père et nous comporter comme un Père, comme un fils. Voilà. Et c'est dans Jésus qu'on peut le faire, puisqu'on a été incorporé au Christ par le baptême. Et donc, quelque part, c'est ce qu'on dit aussi à la Vigile Pascale et à tous les baptisés, ils sont configurés au Christ. Donc, quand on dit configuré, c'est de la même figure que le Christ. Voilà, donc là, on retouche la ressemblance originelle. Saint Maxime le Confesseur mentionne l'adoption filiale à plusieurs reprises. Le Christ a donné à ceux qui croient en son nom de naître enfants de Dieu au lieu d'enfants du sang et de la chair. Illuminés par le bain divin de la régénération, ils sont rendus dignes d'être adoptés par Dieu dans l'Esprit. Dieu donne la filiation en faisant don par l'Esprit de la naissance surnaturelle d'en haut dans la grâce. Donc la naissance surnaturelle, c'est le baptême, hein. L'Église rend manifeste le don de la filiation octroyé par le Saint-Baptême dans l'Esprit-Saint. Donc on a vraiment cette on est devenu fils et fille, en l'occurrence, on est surtout des filles, là je crois, autour de la table. Et le Christ a implanté dans notre humanité, en fait, son mode filial. C'est-à-dire qu'on n'est pas fils comme de la terre, enfin comme on l'est de nos parents, mais on est fils selon le mode filial du Christ, qui est le Fils éternel, le Fils bien-aimé du Père, et qui nous a montré dans sa passion et sa résurrection l'obéissance, et une obéissance qui est amour. Et c'est cette obéissance qui est indispensable pour entrer dans le royaume des dieux et qui fait qu'on peut exercer et vivre ce mode filial, en fait. Voilà. Donc c'est dans l'obéissance. Et donc cette phrase de Matthieu, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Elle nous fait entrer dans la famille de Dieu. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Donc le salut, c'est pas juste un tampon et puis voilà, on est fils de Dieu. Donc c'est pas comme ça que ça marche, puisqu'il faut cette... Dieu prend au sérieux notre liberté. Et donc, il faut attendre cette réponse qui est l'obéissance, qui est faire la volonté du Père. Et c'est ce que nous disons tous les jours dans notre Père. Alors on va passer à la partie 2 sur le sang et l'Eucharistie. Donc le deuxième sacrement de l'initiation, enfin le troisième en l'occurrence dans l'ordre, mais on voit en deuxième. Alors, petit extrait de Vatican II, Sacro Sanctum Concilium. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est reçu en nourriture, l'âme est comblée de grâce et le gage de la gloire future nous est donné. Donc on va détailler un peu tous ces aspects-là. Comment est-ce que ça, sacrement de l'amour et de l'unité, comment est-ce que ça nous... L'âme est comblée de grâce, comment est-ce qu'elle rentre en relation avec Dieu? Et puis la gloire future, qui est aussi d'abord la résurrection et la vie éternelle. Et puis je vous ai mis cette, de toute façon, très belle citation de Jean, que je trouve vraiment toujours clé pour contempler la passion et la résurrection, et qu'est-ce que ça veut faire pour nous. C'est « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Donc c'est Jésus qui nous l'a dit avant de mourir. Et il y a vraiment cette idée de, voilà, il va s'élever de terre sur la croix, qui est comme un trône, en fait, de son obéissance et de faire la volonté du Père et de sa mission finalement d'amour pour nous. Et il attire, j'attirerai à moi tous les hommes. Voilà. C'est cette attirance qui n'est pas imposée, mais qui est offerte et proposée et à laquelle on peut répondre. Donc le premier aspect que je voudrais souligner dans cette dimension avec le sang et l'Eucharistie, c'est vraiment... cette idée de nouvelle alliance, de réconcilier avec Dieu. Donc le courant repasse entre Dieu et nous. Adam, péchant dans le péché originel, avait coupé ce lien puisqu'il se cachait de Dieu et qu'il a même été expulsé du paradis, donc il n'était plus en proximité de Dieu. Donc ce que fait Jésus, et il le dit à la scène, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. » Donc on a vraiment ce sang qui est le sang de l'alliance, voilà, qui restaure cette alliance et ce courant entre Dieu et l'homme. Donc Jésus, en sa personne, allie de manière définitive la divinité et l'humanité, qui ont désormais partie liée à tout jamais. La nature humaine est réconciliée avec Dieu parce qu'elle est désormais liée indissociablement à la divinité dans le Christ. Donc en fait, ce n'est pas juste qu'il a restauré la possibilité du dialogue entre Dieu et l'homme, puisque ça, même dans l'Ancien Testament, Moïse, par exemple, il faisait ce lien entre le peuple d'Israël et Dieu, en allant sur la montagne, en descendant avec la loi, etc. Donc il y avait déjà du courant qui passait, grâce aux prophètes, grâce aux justes de l'Ancien Testament. Là, ce que fait Jésus, c'est que lui, dans sa personne, en fait, il fait la réconciliation. Donc c'est pour ça qu'on a une unité beaucoup plus forte et que ce n'est pas une réconciliation juste de... Enfin, elle ne pourra plus se détruire puisque dans le Christ, on a à la fois l'homme, à la fois Dieu. Et donc, on a cette réconciliation qui est interne finalement à Jésus et qui va du coup déborder sur nous justement par ce débordement d'amour puisqu'il a fait pour nous. Et donc, il réconcilie notre nature humaine. Donc, ce n'est pas chacun d'entre nous avec Dieu, mais c'est même notre nature parce que lui a porté indissociablement dans sa personne et la divinité et l'humanité. Et donc, on a cette association, cette unité, finalement, qui est possible, parce qu'elle est déjà dans le Christ, et parce que, et on verra un petit peu après dans le paragraphe suivant, parce que nous, on est appelés à devenir le corps du Christ, et donc à vivre de cette unité, de l'unité même qui est en Jésus, entre l'humanité et la divinité. J'espère que je suis à peu près claire. Donc, tout vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation, car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, à l'intérieur du Christ, réconcilia le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes. Il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Et là, quand on dit la parole, on pourrait presque mettre un P majuscule. C'est parce qu'il est lui-même la parole. Et donc, quelque part, quand il nous parle, c'est le Christ lui-même qui est en nous et qui nous transforme et qui nous rend un. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ça, c'est une thématique qui est très importante dans le carême. Voilà, cette idée de se laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et c'est laissez-vous réconcilier. Donc, on est un peu passif dans l'histoire. Mais il faut l'accepter. Ça, c'est déjà un début d'action. Donc, on est déjà dans notre réponse. C'est de se laisser réconcilier avec Dieu. Non seulement le Christ nous a réconciliés avec Dieu dans sa personne, mais en plus, il intercède pour nous. C'est-à-dire qu'il est tout, il est dans ce rôle de défenseur, d'avocat pour nous. Finalement, ce n'est pas notre juge. On parle souvent du Christ et on le verra dans le dernier cours, la fois prochaine, sur le jugement dernier, le retour du Christ. Jésus, en fait, ce n'est pas le juge, c'est l'avocat. Donc, il est là pour nous défendre. Il intercède pour nous. Voilà. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché, mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Et c'est lui qui nous permet d'en bénéficier, et c'est lui qui, chaque fois qu'on dit « prends pitié de nous », par exemple, ou qu'on va se confesser, c'est lui qui intercède pour nous et qui nous fait passer ce pardon, en fait, cette miséricorde de Dieu. Voilà. Donc, c'est réconcilier au sens fort du terme. Pas juste le courant passe, mais on est quelque part, on bénéficie de la réconciliation même du Christ. Et donc, c'est cette thématique de devenu le corps du Christ, puisque c'est ce qui se passe dans l'Eucharistie, en fait. Ceux qui reçoivent l'Eucharistie sont unis plus étroitement au Christ. Par là même, le Christ les unit à tous les fidèles en un seul corps, l'Église. La communion renouvelle, fortifie, approfondit cette incorporation à l'Église déjà réalisée par le baptême. On avait dit configurer au Christ, au baptême, donc on est rendu de nouveau semblable au Christ. Là, on est assimilé quelque part, incorporé, c'est-à-dire qu'on est transformé dans le corps du Christ en fait. Et donc c'est là qu'est notre vocation. Dans le baptême, nous avons déjà été appelés à ne faire qu'un seul corps, mais l'Eucharistie réalise cet appel. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un pain, à nous tous, nous ne formons qu'un corps, car tous, nous avons part à ce pain unique. Donc ça, c'est dans la première lettre aux Corinthiens. Donc il y a vraiment cette idée, toute cette thématique du corps, où finalement, l'Église est le corps du Christ, les baptisés sont le corps du Christ. Et cette incorporation, cette transformation petit à petit en corps du Christ, elle se passe à chaque Eucharistie. C'est non pas, d'habitude, quand on mange du pain, c'est le pain on l'assimile le pain, et on le transforme en nous quelque part. Là, quand on mange le pain de vie, le corps de Jésus, et ben en fait c'est l'inverse, c'est nous qui nous transformons en Jésus. Voilà, donc on est dans l'opération inverse et qui nous incorpore au Christ et donc qui fait bénéficier de cette réconciliation en étant quasiment dans le Christ, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas individuel, c'est déjà du collectif. Et ça, on le verra aussi un petit peu plus loin sur le fait que le salut, c'est pas seulement un salut individuel, parce que nous sommes faits pour aimer et nous sommes faits pour être en relation. Donc il y a forcément de la communauté là-dedans. Et l'Eucharistie, c'est ça. C'est, on n'est pas chacun le corps du Christ, on est tous ensemble le corps du Christ. Voilà. La chair du Christ qui, avant la passion, était la chair du seul Verbe de Dieu, a tellement grandi par la passion, elle s'est si bien dilatée, elle a si bien rempli l'univers, que tous les élus, par l'action de ce sacrement, il les réunit en une seule église où Dieu et l'homme s'embrassent éternellement. Alors, il y a plein de beaux textes du cardinal Henri de Lubac. Là, c'est dans Corpus Mysticum. Et je trouve qu'il est... ça donne une vision, j'aime bien, parce qu'il a toujours une impression qu'on visualise les choses, enfin. On pourrait dessiner, on pourrait faire un tableau de ça. Voilà, comme si dans la passion, la chair du Christ, elle se grandit tellement, elle est tellement dilatée qu'elle peut nous atteindre chacun d'entre nous. Et finalement, quand on communie, on a un tout petit morceau de pain et c'est l'entièreté du corps du Christ et chacun reçoit l'entièreté du corps du Christ. Donc il y a quelque chose de cette dilatation qui est toujours le thématique de la surabondance de l'amour de Dieu qui déborde quelque part. Et donc cette chair du Christ qui est pourtant sur la croix, elle était bien délimitée entre quatre clous. Et ben elle se répand là dans tout l'univers et elle peut nous faire que Dieu et l'homme s'embrassent éternellement. Je trouve que c'est un texte magnifique à méditer. C'est pourquoi aussi le Seigneur avait promis de nous envoyer un paraclet qui nous accorderait à Dieu. Car comme de la farine sèche, on ne peut sans eau faire une seule pâte et un seul pain, ainsi nous qui étions une multitude, nous ne pouvions non plus devenir un dans le Christ Jésus sans l'eau venue du ciel. Donc là, c'est un peu la thématique, j'aurais peut-être pu le mettre plutôt dans le baptême d'ailleurs. Mais il y a cette idée de, voilà, on fait un et c'est avec la grâce de Jésus, quoi. C'est par son salut qu'il nous est donné. Mais si nous le recevons, si nous allons communier, si nous exprimons notre foi, eh ben, on peut devenir un dans le Christ. Alors, dans cette thématique aussi du sang, c'est aussi de l'Eucharistie, c'est aussi pour la vie éternelle, hein. Donc c'est ressuscité, c'est cette résurrection du Christ, puisque finalement, dans la passion, c'est ce que j'avais dit, je crois, au cours dernier, dans la scène, Jésus institue l'Eucharistie, et en fait, il n'institue pas un corps mort qui sera mort le lendemain, c'est-à-dire qu'il ne dit pas « voici mon corps livré pour vous ». Oui, certes, le vendredi saint, mais il annonce un corps livré, c'est la vie qu'il nous donne, puisque c'est pour la vie éternelle. Donc c'est aussi le corps qui va être livré le lendemain, vendredi saint, mais qui va être aussi ressuscité le dimanche matin. Donc on est sur ce corps vivant, voilà, et cette résurrection. Donc c'est ça à quoi on communie en fait, c'est à cette vie éternelle et à ce salut qui nous vient par le corps du Christ et le sang du Christ. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc ça passe par la foi, et la foi elle s'exprime par notre participation. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Tout ça, c'est des textes de Saint Jean. Tout le discours du pain de vie avant la scène, qui est tout sur la thématique de cette idée de pain, de corps du Christ, de pain de vie, sur la vie éternelle, sur comment être un avec Dieu, la demeure aussi, toute cette idée de demeurer et que Dieu vient demeurer en nous. Voilà. Donc, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Donc les choses sont claires. L'Eucharistie nous donne la vie éternelle. Pour être guéri, il faut regarder le mal en face. Alors là, je fais un passage qui est cité dans Jean, aussi 3, qui fait référence à Moïse, vous savez, dans le désert, pendant qu'ils étaient dans le désert. Ils ont tellement râlé contre Dieu, ils sont détournés et rien n'allait, que du coup, il y a eu des serpents brûlants qui sont arrivés et qui ont tué énormément d'Israélites. Et donc Moïse, de nouveau, intercède pour le peuple. Et donc Dieu dit, fais-toi un serpent d'airain, donc un serpent de bronze, élève-le et tous ceux qui regardent ce serpent seront guéris. Voilà. Donc, et là, Jean, il fait référence à cet épisode. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, et là on parle de la croix, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Donc on est bien en lien avec le salut, donc le salut est lié à la vie éternelle, et il est lié à cette croix qui est élevée, et cette idée que, ce qui était déjà le cas pour le serpent de bronze, que si on regarde le mal en face, si on le discerne, si on n'est pas dupe, ça c'est toute la partie confession aussi, quand on confesse son péché, ben on est dans cette dimension-là, c'est-à-dire de regarder le mal et de le regarder avec Jésus. Là, on peut le passer au-delà et finalement avoir la vie éternelle. C'est aussi toute la thématique sur le grain de blé tombé en terre qui meurt s'il reste seul. Qui ne meurt pas s'il... Et du coup, il reste seul, mais s'il meurt, en fait, il porte du fruit. Donc, pour que le grain mûrisse et donne du fruit, eh ben, il faut qu'il meure. Voilà. Et c'est la même idée sur « qui aime sa vie, la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle ». Jésus l'a fait le premier. Il a donné sa vie et les morts, et il a la résurrection. Et nous, c'est ce dont nous allons bénéficier à sa suite. Voilà. Même si ce n'est pas encore apparent maintenant. Et ça, on va regarder tout de suite après, cette thématique de... Il y a beaucoup de choses qui sont dites là, mais qui ne sont pas encore réelles et opérationnelles et qu'on ne voit pas vraiment aujourd'hui. Alors, le dernier texte, c'est un texte de saint Maxime de Turin sur la résurrection. « Par le signe de la croix du Christ, du Seigneur, la mer est ouverte, la terre cultivée, le ciel gouverné, les hommes sont sauvés. Et même, je l'affirme, par ce signe de Jésus, les profondeurs du séjour des morts sont ouvertes. Car l'homme Jésus, le Seigneur, lui qui portait la vraie croix, a été enseveli en terre, et la terre qu'il avait profondément labourée, qu'il avait pour ainsi dire brisée de toutes parts, a fait germer tous les morts qu'elle retenait. » Donc cette idée du grain qui tombait en terre, s'il ne meurt pas, et ben ne porte pas de fruits, et ben là, Jésus, il est tombé en terre, il est mort, et il a porté beaucoup de fruits. Et ces fruits, c'est la résurrection pour nous tous, et le salut pour nous tous. Alors, on va dire oui, mais pour l'instant, on nous dit illuminé, on connaît Dieu, on est réconcilié, on est ressuscité, ça se voit pas beaucoup. Alors oui, il y a toute cette notion de tout est donné, tout est déjà donné, tout est là, et tout est pas encore. Donc il y a beaucoup de choses qui sont pas encore données. Donc c'est cette phrase de Saint-Pierre, dans première lettre de Saint-Pierre, « Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. » Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Donc on est déjà dans la joie, on exulte d'une joie inexprimable, ce qui est quand même très très fort, et remplie de gloire, parce que on sait qu'on est sauvé, parce qu'on a déjà accès à Jésus, même si on peut l'aimer sans l'avoir vu et on ne le voit pas encore. Voilà, et qu'on est dans la dimension de la foi. Donc on a cette... et ça, c'est depuis l'ascension, hein, où Jésus a disparu des yeux des disciples. On est dans une phase d'accomplissement, mais qui dure un peu. Voilà, il y a comme un étirement du temps entre l'ascension du Christ et le retour du Christ. Donc on est déjà à la dernière heure, comme dit l'aide de Saint Jean. Ainsi donc, déjà, les derniers temps sont arrivés pour nous. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis et en toute réalité, anticipé dès maintenant. En effet, déjà sur la terre, l'Église est parée d'une sainteté imparfaite, mais véritable. Donc tout est là, même si tout n'est pas très visible. Et l'Église en est le symbole, parce que l'Église, c'est non seulement l'Église en tant que le corps du Christ, justement, le corps mystique du Christ avec... tous les baptisés et tous ceux qui sont le corps du Christ, mais c'est aussi l'Église au sens celle qui nous donne les sacrements et donc qui nous donne accès à Dieu. C'est elle qui nous partage la parole et l'explicite par la tradition, etc. Et donc la parole, c'est Jésus lui-même. Donc dans l'Église, on est déjà, c'est un peu le ciel sur la terre, quoi. On est déjà en train d'expérimenter le royaume final. Même si on doit reconnaître par ailleurs que l'Église, elle est aussi faite de pécheurs et qu'on n'est pas tous parfaits et que l'Église, elle n'est pas... Elle est sainte peut-être, mais ça ne se voit pas tous les jours. Voilà, sainteté imparfaite encore. Voilà. Le ressuscité dont nous proclamons la présence dans l'Eucharistie est à la fois Jésus le crucifié et puis le Seigneur qu'on attend toujours, comme dit saint Paul. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc on est dans ce temps-là, entre le déjà-là et le pas encore. Et donc entre tout ce qu'on peut déjà expérimenter, via l'Église, via les sacrements, via la prière, via la relation personnelle qu'on a déjà avec Jésus, et ce pas encore, où finalement on est dans l'espérance, la soif du salut, qui est déjà donné personnellement, mais qui n'est pas encore ni ecclésiale, ni cosmique, et qui reste toujours finalement à étancher, donc l'idée qu'il n'est pas complètement réalisé ou complètement opérant pour nous. Donc le salut n'est pas instantané, on s'étire entre quelque chose de, à l'heure actuelle, qui est caché, le salut il n'est pas très visible, fragile, parce qu'il y a encore ce penchant qu'on a vu vers la concupiscence, le penchant vers le péché, et puis d'intérieur, c'est-à-dire que pour l'instant, ça reste beaucoup des choses du cœur, des choses qui se passent à l'intérieur, en fait. Et puis d'individuel, voilà. Et on est sur cette dimension un peu cachée, fragile. Et puis on va vers un plérôme. Plérôme, ça veut dire plénitude, visible. Donc là, qui va embrasser toute la totalité de la personne, avec son corps, mais aussi toute l'humanité, tout le cosmos. Et là, on aura ce sera plus du tout du domaine de l'intérieur et du fragile et du parcellaire individuel. Ce sera vraiment du plénier. Et donc, ce sera la Jérusalem céleste. Mais on a déjà des acomptes maintenant. Voilà. Et donc, on ne peut pas se contenter du présent en disant « Oui, bon, on verra au ciel, quoi. » Non, il faut soupirer vers le ciel. Et l'Eucharistie, finalement, c'est une manière de vivre ce ciel sur la terre. Parce qu'elle est à la fois présence et absence du Christ. Celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Et donc finalement, dans l'Eucharistie, ce qu'on voit, c'est à la fois l'autel qui est là, avec le pain et avec les yeux de la foi, on peut voir que c'est Jésus. Et en même temps, c'est déjà la table des noces qui est au ciel, ce qu'on dit, l'ange porte notre offrande dans la gloire céleste. Je ne sais plus exactement la phrase de la préface, mais voilà, il y a cette idée que c'est déjà le banquet du ciel, en fait. Voilà, l'Eucharistie nous donne à chaque messe le moyen de rejoindre Jésus. Il est vraiment présent. Son vrai corps et son vrai sang sont là devant nous, puisqu'il nous l'a dit. Il est là totalement présent avec son corps, son âme, sa divinité. Saint Thomas d'Aquin nous dit que sur la croix, sa divinité était cachée, mais que tout le monde pouvait voir son humanité. Eh bien, nous, dans l'hostie, même son humanité, elle est voilée. Donc, on ne voit, finalement... Mais par contre, du coup, elle ne nous cache rien, l'humanité, non plus. Donc, c'est le mystère de la foi par excellence. Il n'y a que les yeux de la foi qui peuvent voir ça. Et cette présence qui défie nos sens, qui ne voit jamais que du pain et du vin à changer, ben, en fait, dans la foi, on peut vraiment expérimenter cette rencontre avec Jésus vivant et ressuscité. Et je trouve très intéressant de voir que ce soit pour les pèlerins d'Emmaüs qu'on a lu le mercredi de l'octave pascale ou qu'on peut lire le dimanche soir de Pâques, et puis ce qu'on va lire à l'Ascension dans quelques semaines. En fait, Jésus, à chaque fois, il commence par expliquer l'Écriture à ceux qui l'accompagnent. Donc, il repart de tout cet temps qui se déroule, cette histoire. Il leur démontre que sa mort et sa résurrection étaient annoncées. Ensuite, il prononce une bénédiction dans les deux cas de figure. Pour les pèlerins d'Emmaüs, il prononce la bénédiction du repas. Et ce faisant, pouf, il disparaît au regard. Et là, au lieu de se dire, les disciples, bah, du coup, ils devraient être frustrés. Ils avaient Jésus, le temps qu'ils le réalisent, bah, hop, il est déjà parti. Et bien, en fait, pas du tout. Ils sont retournés à Jérusalem en grande joie. Et dans les deux cas de figure, que soit l'Ascension ou les pèlerins d'Emmaüs. Donc en fait, comme si c'était dans ce mode de retrait, dans ce mode d'absence un peu où Jésus n'est pas si présent que là, en tout cas pas physiquement présent au sens tangible qu'on pourrait le voir, et bien finalement c'est là qu'il se donne vraiment. Et dans ce pain de l'Eucharistie, où on ne voit pas son corps d'homme, ben en fait on voit mieux le Christ ressuscité et on peut être finalement, il est plus présent à nous. Probablement que ce que les disciples expérimentaient, puisque les pèlerins d'Emmaüs, ils ont quand même cheminé 2 heures avec Jésus sans s'apercevoir que c'était Jésus. Alors, je sais qu'à la messe, ou à l'Eucharistie, ou quand à l'adoration, on peut passer aussi beaucoup d'heures sans réaliser que Jésus est là. Mais c'est plus notre inattention et la difficulté de rester accroché à Jésus que parce qu'on ne l'a pas reconnu, en fait. Voilà. Et donc, on peut expérimenter de le voir. Et c'est pour ça que l'adoration eucharistique est une très belle chose. Et que, parce que c'est déjà un peu un mode où on est à la fois complètement dans cette confiance, cette foi, et qu'en même temps, on peut dire « Jésus, tu es là ». Alors, dans la troisième partie, donc, on va être sur le sacrement de la confirmation et de l'Esprit-Saint. Donc, peut-être celui qui est le plus intérieur à nous et qui nous fait vivre et qui est le plus quotidien pour nous. L'Eucharistie pourrait être quotidienne aussi, mais l'Esprit, c'est celui qui habite en nous. Saint Maxime le Confesseur affirme « En lui, le Christ, la nature... » En lui, c'est le Christ, la nature humaine tout entière ayant été assumée et sauvée et divinisée. Et Jésus répondit, alors, amen, amen, je te le dis, c'est un dialogue avec Nicodème, qu'on est en train de lire d'ailleurs dans toutes les lectures là, de la semaine. Amen, amen, je te le dis, personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je te l'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni d'où il va, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Voilà. Cette effusion de l'esprit, elle était annoncée dans le livre de Joël. Alors après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair, vos fils et vos filles prophétiseront, pardon. Donc il y aura cet Esprit Saint qui est là et qui nous habite et qui va nous rendre prophètes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir annoncer et parler de l'Esprit, en fait, enfin, parler depuis l'Esprit. La passion et la résurrection du Christ, elle réalise finalement cette prophétie de Joël. Jésus remet l'Esprit sur la croix. Donc quand dans Saint Jean, quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli », puis inclinant la tête, il remit l'Esprit. Donc on a la première émission de l'Esprit, effusion de l'Esprit sur la croix, donc qui est bien liée à la mort, à la passion de Jésus, qui nous donne l'Esprit en fait. Là, il souffle sur ses disciples, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Ça c'est là, ce qu'on appelle la petite Pentecôte, où ses disciples sont au cénacle, claquemurés parce qu'ils ont peur. Et puis enfin, la vraie Pentecôte, Jésus envoie un autre paraclet lors de la Pentecôte. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient. Il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Donc ce que fait la Pâque du Christ, sa passion et sa résurrection, et ben, elle s'accomplit dans l'effusion de l'Esprit qui est manifestée, donnée et communiquée comme une personne divine. Donc finalement, ce que Jésus a fait par sa passion et sa résurrection, et ben en fait, il nous l'a communiqué, pas comme une chose, pas comme un don, mais comme une personne divine qui vient nous habiter, qui est l'Esprit Saint. Et donc, de sa plénitude, le Christ Seigneur répand à profusion l'Esprit. L'amour, Dieu l'a répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous fut donné. Et alors, dans Saint Basile, dans son traité du Saint-Esprit, un énorme bouquin sur le Saint-Esprit qui est très chouette aussi. Par communion avec lui, l'Esprit Saint rend spirituel, rétabli au paradis, ramène au royaume des cieux et à l'adoption filiale, ce qu'on a vu pour le baptême. Ramène au royaume des cieux, donc ça c'est la résurrection et l'entrée dans la Jérusalem céleste. Et puis donne la confiance d'appeler Dieu Père, donc on est vraiment enfant de Dieu, et de participer à la grâce du Christ, c'est toute la notion de configuration au Christ, et de devenir le corps du Christ, d'être appelé enfant de lumière, illumination, et d'avoir part à la gloire éternelle. Donc finalement, c'est pour ça que c'est difficile. Enfin, j'ai pris le parti pris de prendre le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, mais finalement l'Esprit, il est dans le baptême. L'Esprit, il est aussi à l'Eucharistie, puisque c'est lui qu'on invoque pour que le corps et le pain et le vin se transforment en corps et le sang du Christ. Et puis, il est dans la confirmation. Donc, finalement, l'Esprit, c'est celui qui... Voilà, mais il est plus en plénitude dans la confirmation, mais il est toujours présent parce que c'est lui qui nous donne justement cette capacité de recevoir le salut et d'en bénéficier dans toutes les dimensions qu'on a déjà vues. Alors là, c'est le petit point sur la partie cosmos. Et puis finalement dimension communautaire. La terre trembla et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc ça, c'est dans Matthieu, juste après la mort de Jésus. Et donc, on a tout le cosmos qui est concerné. Les rochers, la terre et puis même le Shéol, donc c'est-à-dire là où étaient les morts. Donc, l'Esprit Saint, libéré à la mort du Christ, qui se répand plus... C'est pas qu'il n'était pas là avant, mais il se répand plus largement, renouvelle le cosmos et permet la communion des saints. Voilà. Nous tous qui avons reçu l'unique et même esprit, à savoir l'Esprit Saint, nous nous sommes fondus entre nous et avec Dieu. Car bien que nous soyons nombreux séparément et que le Christ fasse que l'Esprit du Père et le sien habitent en chacun de nous, donc il y a le côté individuel, cet Esprit unique et indivisible ramène par lui-même à l'unité ceux qui sont distincts entre eux. L'Esprit Saint, c'est celui qui fait l'unité entre le Père et le Fils, c'est celui qui manifeste l'unité de Dieu. Et donc c'est toujours l'Esprit, c'est toujours celui qui unit, qui rassemble, qui donne cette unité, qui est l'unité de l'amour en fait. Et donc là, il mène à l'unité ceux qui sont distincts entre eux, que ce soit nous et Dieu, mais que ce soit aussi entre nous, et fait que tous apparaissent comme une seule chose en lui-même. Et de même que la puissance de la sainte humanité du Christ fait que tout cela en qui elle se trouve forme un seul corps, je pense que de la même manière, l'Esprit de Dieu qui habite en tous, unique et indivisible, les ramène tous à l'unité spirituelle. Donc on a toutes ces dimensions d'unité et donc de possibilité d'unité communautaire. Et c'est ce qu'il y aura à la fin des temps. Et parce que finalement, la dimension communautaire, ce n'est pas une juxtaposition de corps, ce n'est pas une juxtaposition de relations, c'est ce pourquoi, en effet, aimer... Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Enfin, c'est ce qui fait notre vocation, c'est d'aimer Dieu et d'aimer nos frères. Donc c'est plus que d'être en relation, c'est d'aimer. C'est même plus unitant. Enfin, ça donne plus dans la dimension de l'unité. Là, je crois que c'est la dernière idée. Non, pas tout à fait. Diviniser. Donc ce terme a été employé par saint Athanase. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit divinisé, et qui fait référence au psaume 81, je lui dis vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Et saint Thomas d'Aquin qui est renchéri, le fils unique de Dieu, voulant que nous participions à sa divinité, assuma notre nature afin que lui, fait homme, fit les hommes Dieu. Donc parce que lui s'est fait un homme, il nous a embarqués dans son ascension pour que l'homme devienne Dieu. Donc c'est le thème de la divinisation. Et là, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on rentre encore un peu plus en profondeur quand on disait on restaure la relation avec Dieu, le courant repasse. Ben, quand on dit diviniser, on est vraiment transformé en Dieu. Donc on a vu... Dans le baptême qu'on devenait fils de Dieu, donc quelque part on est frère de Jésus, donc là on est aussi quelque part en Dieu. Dans l'Eucharistie, on a vu qu'on devenait le corps du Christ, donc on est là on est carrément un membre de son corps. Divinisé, on devient Dieu lui-même, quoi. On est c'est encore un point plus loin, voilà. Mais à chaque fois on est dans ce même fil de cette Dieu nous a fait pour lui et ça va jusque là jusqu'à ce qu'on soit divinisé, rendu Dieu. Dieu vient vivre en nous le mystère de la rédemption et nous entrons dans le mouvement du Christ pour être divinisé, j'ai déjà lu. L'homme est divinisé lorsqu'il veut pleinement ce que Dieu veut sans cesser d'être homme et ni cesser de vouloir. En fait, c'est ce que sont les saints à la fin des temps la fine pointe des saints, c'est ça. C'est cette volonté. Finalement, on voit que ce qui fait l'unité de Dieu, c'est Jésus à Gethsémani. Il a dit que ta volonté soit faite, donc sa volonté humaine s'est coulée dans la volonté divine, qui est une. Il y a une seule volonté du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu. Et donc, c'est cette volonté du Christ qui s'insère dans la volonté divine. C'est ce que nous, on est appelés à faire, et c'est ça la divinisation, c'est que notre volonté va s'insérer dans la volonté divine. Et donc, on va être encore plus un homme ou une femme, mais on sera tellement... ajusté à Dieu, ajusté à la volonté, dans la volonté de Dieu, qu'on va pouvoir être de Dieu. Voilà. Dès cette vie, il fait l'objet d'un désir exprimé par l'Église dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. finalement, quand on dit cette phrase, on fait un appel à la divinisation. Hein. Ce désir est la forme actuelle de l'amour tendu vers son accomplissement, une anticipation des noces éternelles dans la Jérusalem céleste. Dès cette vie, Dieu peut le combler de manière fulgurante dans une extase passagère. Pas donné à tout le monde, mais un certain nombre de mystiques l'ont eu. Il est élevé à la gloire par laquelle il a été créé. En cela, la déification apparaît comme une humanisation menée à sa perfection. On n'est pas comme chez les bouddhistes dans une sorte de dilution dans un grand tout. C'est pas du tout ça la divinisation. C'est pour être pleinement nous, et donc on reste une personne distincte. L'unité, elle se passe par l'amour. Et donc c'est cet amour, cette acceptation de la volonté de Dieu, qui sont les deux facettes de la même chose, qui fait qu'on est divinisé et qu'on a qu'on devient Dieu en fait, mais qui ne nous nie pas nous comme personne. Donc on n'a jamais la négation de la personne. Jésus homme, et c'est très intéressant, mais bon, on va pas trop. J'en parle un tout petit peu, mais dans l'ascension, Jésus en fait il est monté à la droite du Père avec son corps d'homme. Donc maintenant en Dieu il y a un corps depuis l'ascension. Donc en fait, il n'est pas remonté au ciel et du coup il a nié son humanité comme s'il l'avait laissé sur terre et qu'il redevenait comme avant un fils spirituel, enfin juste spirituel. Non, il a gardé son corps. Donc il y a bien une Jésus il est resté ce qu'il était quoi. Il reste maintenant le Fils éternel est aussi vrai homme. Voilà. Et donc c'est cette idée de ce qu'on sera. Donc la déification apparaît comme une humanisation menée à sa perfection. Et on peut dire que Jésus est le vrai homme, au sens où il est l'homme parfait, l'homme sans péché, l'homme pleinement fils de Dieu. Et donc, c'est ce à quoi on est amené. Le Verbe incarné, vrai homme et vrai Dieu, en qui les natures humaines et divines, les volontés humaines et divines sont unies sans confusion ni séparation, accomplies en sa personne la déification à laquelle sont appelés les saints. L'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire en vue d'une conformité avec le Verbe qui seul est l'image du Dieu invisible. Donc ce mystère de la création est révélé par la vie de gloire, offerte à l'humanité en la personne du Verbe fait chair et qui nous fait entrer dans la plénitude depuis l'ascension. On a cette plénitude qu'on connaîtra. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ, alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. On a l'impression que c'est des mots, mais la lettre aux Éphésiens, c'est vraiment ça. On va entrer dans toute la plénitude de Dieu. Je pense qu'on réalise pas du tout ce que ça veut dire. C'est pas mon cours qui va vous le faire réaliser. Mais c'est ça qu'on peut méditer, en fait. C'est ça qu'on peut, quand on regarde, quand on est dans l'adoration, en oraison, c'est ce à quoi, c'est jusqu'où va l'amour de Dieu. Jésus nous a tellement aimés qu'il veut qu'on soit dans toute la plénitude de Dieu. Donc on bénéficie de tout, quoi. Comme lui. Avec lui, il nous a ressuscité et nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Mais le mystère, par la venue du Dieu vivant, fait éclater cette immuable relation des êtres finis enfermés dans un cycle infrangible et du cercle étroit de son esclavage, il fait référence au péché, il fait échapper l'homme dans l'agapé. L'agapé, c'est l'amour divin, enfin l'amour au sens divin du terme, c'est-à-dire la plénitude de la vie divine. Donc on est vraiment appelé à cette vie divine. Non pas à se transformer en Dieu le Père, hein, c'est pas ça le sujet, mais à être fils dans le Fils et à être pleinement en Dieu. Alors, je vais accélérer un peu parce que je déborde pas mal. Jésus, par l'Esprit, nous donne de pouvoir collaborer à l'œuvre du salut, non pas qu'il manquerait quelque chose, mais afin que nous laissions le salut nous toucher. Donc ça, c'est très important et c'est pour ça que je voulais finir avec ça. C'est l'amour de Dieu va jusque-là. Il attend de notre liberté que nous lui fassions une réponse d'amour. Donc c'est la foi, c'est le fait qu'on croit et qu'on exprime notre foi, le fait qu'on vit des sacrements dans l'Église. Jésus, en fait, il va jusqu'à... Non seulement il a tout donné sur la croix, et c'est tout fait, c'est le salut, il est fait, il est irrévocablement acquis, mais... comme il nous veut une réponse et comme on est à son image, eh ben, il nous donne de pouvoir collaborer en fait à son salut. Et c'est la thématique dans Saint Paul où il dit « Compléter en notre chair ce qui manque à ses épreuves pour son corps qui est l'Église. » C'est pas qu'il manque quoi que ce soit à la croix du Christ. Le salut, il est plein et entier, il est donné à tout le monde et il est fait, quoi. Il est irrévocable. On est ressuscité, mais il nous donne de pouvoir compléter en notre chair, comme si il mendiait notre collaboration. C'est aussi sur la... quand on médite le chemin de croix, voilà, il y a Simon de Cyrène qui a porté la croix du Christ. Voilà, bah, il y a eu cette collaboration de Simon de Cyrène sur ce chemin de la passion, et un peu involontaire, et on ne sait pas très bien en quoi il a aidé, mais en tout cas, c'est ce que Jésus veut pour nous, quoi. Qu'on puisse collaborer, donc compléter dans notre chair ce qui manque à ces épreuves, comme s'il manquait quelque chose. Voilà. Alors qu'il ne manque rien. Mais nous sommes déjà ressuscités, mais pas encore complètement. Et ce pas complètement, on l'a vu, le pas encore de tout à l'heure, c'est que on n'a pas, d'abord, on n'est pas encore passé par la mort réelle, et donc et c'est seulement dans la mort avec Jésus qu'on pourra ressusciter. Mais c'est aussi que il nous donne de pouvoir aussi expérimenter cet amour et ce don nous-mêmes pour pouvoir imiter Jésus, non pas extérieurement, mais de l'intérieur. Être chrétien en ce sens, ce n'est pas d'abord imiter Jésus extérieurement, c'est se renouveler par une transformation spirituelle du jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Cet homme nouveau, c'est Jésus vivant qui donne à tous de sa plénitude et grâce pour grâce, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Je vous laisserai lire cette petit paragraphe de Isabelle Rack dans la revue Résurrection. Sachez que la revue Résurrection, il y en a un certain nombre qui sont en ligne. Donc, quand vous voulez lire un article, notamment, il y a un numéro sur l'Ascension qui est assez, qui m'a pas mal aidé, et puis un numéro sur la Résurrection et sur juger sur l'amour. Voilà. Donc, il y en a plusieurs numéros qui peuvent vous aider à approfondir aussi ces thématiques. Et donc ce paragraphe de Isabelle Rack, c'est sur l'ascension, en fait, comme s'il y avait un aller-retour du ciel, c'est-à-dire le Christ est descendu comme dans l'échelle de Jacob et remonte, et le départ du Christ permet aux apôtres d'agir comme si c'était lui, d'accomplir les œuvres qu'il a lui-même accomplies. Celui qui croit en moi fera lui aussi des œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père, comme si ainsi la distance établi entre les disciples, leur permettait de ne plus être seulement serviteurs, mais d'être les amis du maître et les acteurs de sa mission. Et donc, ils peuvent contribuer, collaborer à l'œuvre du Christ, au salut du Christ, finalement. Et donc, c'est notre participation, et c'est pour ça que nous ne sommes pas des chrétiens passifs, mais des chrétiens actifs. En conclusion, je vous ai mis un extrait de Saint Jean-Paul II, donc Dives in Misericordia. Dans le mystère pascal sont dépassées les limites du mal multiforme auquel participe l'homme durant son existence terrestre. La croix du Christ, en effet, nous fait comprendre que les racines les plus profondes du mal plongent dans le péché et dans la mort. Ainsi deviennent-elles un signe eschatologique. Eschatologique, ça veut dire de la fin des temps. C'est seulement à la fin des temps et lors du renouvellement définitif du monde quand tous, les élus, l'amour vaincra le mal en ses sources les plus profondes, en apportant comme un fruit pleinement mûr le règne de la vie, de la sainteté, de l'immortalité glorieuse. Le fondement de cet accomplissement eschatologique est déjà contenu dans la croix du Christ et dans sa mort. Le fait que le Christ ait ressuscité le troisième jour est le signe qui marque l'achèvement de la mission messianique, signe qui est le couronnement de la révélation complète de l'amour miséricordieux dans un monde soumis au mal. Il constitue en même temps le signe qui annonce à l'avance un ciel nouveau et une terre nouvelle. Quand Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peines il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Le Christ de Pâques est l'incarnation définitive de la miséricorde, son signe vivant, signe du salut à la fois historique et eschatologique. Un peu comme si on avait cette dimension de maturité, j'aime bien l'idée d'un fruit pleinement mûr. Voilà. Le fruit, il est là, il est complet, il est tout là, mais il n'est pas complètement mûr. Il va falloir attendre ce temps jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Christ, pour que on reçoive à ce moment-là l'immortalité glorieuse, la sainteté, la vie. Et finalement, c'est pour ça que ce salut, il est à la fois historique, donc il est dans un temps donné, et après il va s'étirer dans ce temps, et il est eschatologique, il est à la fin des temps. Donc on peut vraiment avoir cette idée, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ce statut, il est à la fois irrévocablement acquis, et il faut essayer d'en vivre maintenant, et en même temps, nous ne pouvons pas encore en bénéficier en plénitude, car le salut, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas un gratuit, ce n'est pas une chose donnée, c'est en fait la restauration de la relation et de l'amour envers Dieu et envers nos frères. Comme Dieu prend au sérieux notre liberté, pour bénéficier du salut et devenir fils dans le Fils, être divinisé, avoir la vie éternelle, en fait, il faut croire avoir la foi. Et donc, c'est ta phrase de Saint Jean qu'on a déjà lue sur « Ceux qui croient en lui ne se perdent pas, mais obtiennent la vie éternelle. » Une foi active, donc c'est pas juste « je crois », mais c'est « j'agis ». Et ça, c'est la lettre de Saint Jacques. Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. En revanche, on va dire, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi donc ta foi sans les œuvres, moi c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Et puis Dieu prend au sérieux aussi notre corporalité, notre espace-temps. Donc l'action rédemptrice du Christ en tant qu'événement historique est rendue présente en tout temps et en tout lieu, c'est ce qui se passe par des gestes concrets que sont les sacrements, qui s'adaptent à notre vie, aussi bien quotidienne, l'Eucharistie qu'on peut recevoir tous les jours, et les étapes clés, le baptême c'est au début de la vie, le mariage c'est à un certain moment, enfin voilà, il y a dans les deux dimensions. Et ces sacrements, en fait, c'est les actes du salut qui relient tout homme à l'acte du salut, de la passion et de la résurrection. Donc c'est comme une actualisation qui nous permet d'être contemporain de ce salut, que le salut devienne contemporain de nous, et donc qu'on puisse en bénéficier déjà. Et puis, cette contemporanéité, elle sera en plénitude qu'à la fin des temps. Voilà. Et du coup, le mode actuel de vivre le salut, eh ben, c'est les sacrements, et c'est dans une dimension ecclésiale et communautaire. Parce que le salut, il est individuel, mais il est aussi communautaire. Sinon, la Jérusalem céleste, elle ne fonctionnera pas. Et c'est pour ça qu'on attend aussi la fin des temps. C'est que ce n'est pas un salut individuel. Sinon, on serait ressuscité à chaque fois que quelqu'un est mort, il serait ressuscité. Non, on attend la résurrection des corps, ce sera qu'à la fin des temps. Parce qu'il faut cette plénitude qu'on aura qu'au retour du Christ, cette plénitude de communautaire et du cosmos. Voilà tout ce que je voulais dire. Ensuite, je vous ai mis un certain nombre de textes à méditer que je trouvais assez intéressants sur la Pâque. On en a eu beaucoup dans ce temps-là. Et du coup, ça peut vous donner des billes pour méditer ou pour bien vivre ce temps pascal, puisque c'est un très beau temps. On a un grand temps de préparation au carême, mais on a aussi un très beau temps pascal pour vraiment méditer et bénéficier de ce salut.